Un face à Duhamel exceptionnel ce soir. Ce n'est pas un couple qui va débattre, mais un trouple. J'accueille Natacha Polony. Bonsoir.
Bonsoir.
Thomas
bonsoir.
Legrand, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et Alain Duhamel.
Bonsoir.
Bonsoir. Alain, nous allons parler de Bruno Retailleau, qui, à la surprise générale, s'est déclaré candidat ce matin à la présidence de son parti, Les Républicains. Le ministre de l'Intérieur a écrit aux militants « J'ai décidé de me porter candidat à la présidence des Républicains ». Aussitôt, réaction de l'entourage de Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau a pris la lourde responsabilité d'ouvrir une guerre des chefs à droite en annonçant sa candidature à la tête de LR. Et l'entourage de Laurent Wauquiez expliquant que les rôles avaient été finalement définis. Retailleau à Beauvau et Laurent Wauquiez devait mener à bien la mission de reconstruction du parti. Mais là, Bruno Retailleau a décidé d'accélérer. Alors pourquoi justement il se lance dans cette bataille maintenant, Bruno Retailleau ?
Alors d'abord, l'idée du pacte, c'est ce que disait déjà il y a quelques jours Laurent Wauquiez. Faut savoir si c'est vrai. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de trace écrite de ce pacte. Hein. Bon, pour le reste, pourquoi maintenant ? Ben, de son point de vue, du point de vue de Bruno Retailleau, je trouve que c'est plutôt bien joué. Parce que il annonce qu'il est candidat à la présidence du Parti Républicain. Ça veut dire en réalité qu'il annonce qu'il a envie d'être candidat à la présidence de la République. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Il le fait à un moment où, du point de vue de l'opinion, il a réussi une percée comme ministre de l'Intérieur. Il le fait à un moment où il est, qu'on s'en félicite ou qu'on le regrette, c'est autre chose, mais assez au point d'équilibre de l'opinion en ce moment, c'est-à-dire plutôt droite dure. Ce qu'il est incontestablement, droite dure. Il prend de court, d'ailleurs les réactions le montrent bien, il prend de court Laurent Wauquiez. Autrement dit, moi j'ai l'impression qu'il a marqué un point. Alors, c'est le premier point. Bon, c'est la tradition, de toute façon, chez les Républicains qui est au départ de candidats.
On ne sait pas quand il y a l'élection d'ailleurs.
C'est absolument, théoriquement. Bon, mais ça n'est pas un hasard. C'est fait juste avant la réunion d'une commission importante de la direction, avec la perspective dans peu de temps d'un congrès. Tactiquement, c'est bien joué. Ça n'est que le début, évidemment. Et comme Laurent Wauquiez est teigneux, ça va être, comme d'habitude dans cette famille d'ailleurs, assez violent.
Une nouvelle guerre des chefs à droite, Natacha Polony ?
Alors, il y a la dimension tacticienne. Et en termes tactiques, qui est à peu près la seule dimension, par exemple, de quelqu'un comme Laurent Wauquiez, en effet, ça pose problème, puisque Laurent Wauquiez, ça n'aura échappé à personne, n'agit jamais sans avoir en tête la question de savoir si ça le favorise ou si ça le défavorise pour 2027. Et là, il se retrouve du coup pris de court. Ce qui est, ça peut être assez amusant si on a un poil d'ironie, mais de fait, on voit que tous ont analysé pour 2027, puisqu'ils ne pensent tous qu'à ça, qu'il y avait un espace à cet endroit-là. Ils pensent tous que c'est là que ça va se jouer, et on voit un Gérald Darmanin, un Édouard Philippe de son côté, etc. Il va y avoir pléthore. Mais il y a aussi une dimension idéologique de fond sur les grands mouvements de l'opinion. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Bruno Retailleau incarne une partie de l'opinion. Alors toute la question, c'est de savoir exactement, justement, jusqu'où va cette partie de l'opinion. Il incarne très clairement la dimension d'une droite catholique qui s'est réveillée, qui a envie de compter, qui avait émergé au moment de la Manif pour tous, puis qui ensuite a redisparu dans les limbes et qui tout à coup se dit...
Il avait un peu incarné François Fillon en son temps.
Exactement.
Il pense que
c'est leur heure. Le problème, c'est de savoir jusqu'où ça s'étend. Or, je pense qu'il plaît à l'opinion pour ce qu'il fait sur la sécurité. Je me demande si ça dépasse cette pure question de la sécurité et de l'immigration, et si, pour le reste, il n'y a pas quand même une niche idéologique. Ça,
Est-ce qu'il ne peut pas récupérer des électeurs de droite qui sont partis rejoindre Marine Le Pen et qui manquent aujourd'hui aux Républicains, ça, vu leur score assez fragile ?
La première personne à qui ça ne doit pas faire plaisir, après Laurent Wauquiez, bien entendu, c'est d'abord Éric Ciotti, parce que c'est très exactement une partie de l'électorat des Républicains qui peut être attirée par Bruno Retailleau. Mais pour Marine Le Pen, c'est évidemment une rivalité d'un type différent de ce dont elle a l'habitude. Il a l'avantage, sauf échec, comme ministre de l'Intérieur. Après tout, pour l'instant, il est dans la bonne période. Quand on s'installe et qu'on est doué pour l'expression et qu'on arrive avec une idéologie très construite sur ce sujet-là, au début, ça marche bien. Ensuite, s'il y a des pépins qui s'accumulent, ça marche moins bien. Mais disons, dans cette phase-là, Moi, je crois qu'il marque le point. Je suis d'accord avec Natacha pour dire qu'il incarne tout à fait la fraction de la droite catholique conservatrice, traditionnelle, etc. Ça, à mes yeux, c'est tout à fait clair. Je pense que sa chance aujourd'hui, hein, je dis ça aujourd'hui, je le dirai peut-être pas dans 6 mois, mais sa chance aujourd'hui, c'est que la droite, en général, est à un niveau de durcissement qui correspond bien à la position que lui a toujours occupée sur l'échiquier politique français. Il a toujours été à la droite de la droite, toujours été une droite, moi je dis 19e siècle, mais qui était effectivement la droite d'avant le ralliement des catholiques à la République, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'opinion et le sondage terrifiant qui a été publié dans Le Monde d'hier le montre bien. Les Français sont à la recherche de symboles d'autorité et pas du tout de tolérance. Donc celui qui incarne d'une certaine manière ou qui essaye d'incarner l'ordre et la répression, il risque d'être en accord.
Thomas Legrand, vous l'éditorialiste de Libération, vous vous passionnez pour cette nouvelle guerre à droite? Parce que je disais nouvelle guerre, c'est l'histoire de la droite française, de Giscard Chirac, Chirac-Balladur, Copé-Fillon.
Oui. Ça m'intéresse pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas que ça m'intéresse pas beaucoup. C'est amusant. La course de petits chevaux à droite est intéressante au-delà.
Qui existe dans toutes les à gauche, au centre.
Non, mais au-delà même du roman personnel de chacun qui est assez amusant à commenter, et aussi de distinguer les différentes droites dans l'histoire de la droite, comme viennent de le faire Alain et Natacha, c'est intéressant. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on est dans une période où on a besoin, finalement, de retrouver du parlementarisme, de retrouver un esprit de compromis, de voir entre les partis que il n'y a pas de majorité. On ne peut pas agir, on ne peut rien faire, et on ne fait rien. Et on rentre encore une fois, nous les commentateurs et eux les politiques, dans la logique présidentielle qui est en concurrence, cette logique présidentielle, avec une autre légitimité, source de légitimité, c'est la source de légitimité législative, celle qui vote les lois. Donc, on y rentre, ça va nous occuper, pendant ce temps-là, on fera rien, donc ça me désole un peu. Pour ce qui est, mais je voudrais répondre à Alain sur la droite dure. Il est au ministère de l'Intérieur. C'est très pratique, le ministère de l'Intérieur. C'est un ministère un petit peu de la parole performative. La parole performative, c'est une parole qui quand elle est prononcée, change la vie des gens, mais change les rapports de force. Donc change la situation, la réalité politique. Mais au bout d'un moment, et on l'a vu avec Nicolas Sarkozy qui annonçait des lois, vous savez, les lois en matière de sécurité, le moment important de la loi, c'est pas quand elle est appliquée, elle est jamais appliquée d'ailleurs, parce qu'on en fait toujours une autre. C'est quand elle est annoncée, c'est l'effet d'annonce.
Bah, Nicolas Sarkozy l'a fini à l'Élysée. D'ailleurs, c'est le seul ministre de l'Intérieur.
Il a fait neuf lois sur la sécurité, et à chaque fois qu'il a fait une loi, la précédente loi n'avait pas vu 50% de ses décrets d'application votés. Donc c'était toujours l'annonce. Là, il y a un moment où, à force d'annonces, à force de coups de gueule, il va pas se passer grand chose. Mais si vous imaginez que la sécurité va aller mieux, et donc Marine Le Pen,
on peut imaginer, oui.
On peut toujours imaginer. Moi, je pense pas que ça soit en faisant ça. Et Marine Le Pen dira toujours, vous voyez, ils font les gros bras, mais ils n'y arrivent pas. Donc là, c'est pas la présidentielle, c'est pas le prochain président. On discute pas du prochain président. Je pense qu'on discute du prochain premier ministre de Marine Le Pen.
Mais pourquoi pas, mais Alain Duhamel, est-ce qu'il va pas un peu trop vite, Bruno Retailleau? Parce que les Français l'aiment bien aussi. Ministre de l'Intérieur, ils vont se dire, ah, ça y est, déjà, ils pensent à autre chose, ils pensent à la présidentielle. Donc déjà, ils s'occupent plus de nous, en quelque sorte. Alors, les Français n'aiment pas trop ça.
Alors, je suis d'accord. Les Français considèrent que ceux qui sont au gouvernement sont censés être là pour les aider, même s'ils pensent qu'ils sont mal aidés. Bon, je crois vraiment que quand on est ministre de l'Intérieur, on a 6 bons mois pour marquer ou pas, selon ses qualités.
C'est le ministre de l'actualité.
Oui, donc pour marquer ou pas, mais malheureusement, ils ont toujours des occasions de marquer au début. Oui. Et au bout de 6 mois, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se pose la question des résultats tangibles. Alors, il peut y avoir des résultats, disons, qui sont en réalité symboliques. Naturellement, à ce moment-là, ce sera sur le problème de l'immigration, évidemment, où ils diront, voyez, on est arrivé cette année à ceci.
Et Marine Le Pen dira, vous mentez.
Mais ça leur n'empêche qu'ils pourront le dire. Mais au bout de 6 mois, les gens surtout se diront, est-ce qu'on est plus en sécurité? Est-ce qu'on est plus tranquille? Est-ce que les enfants peuvent aller à l'école? Et à ce moment-là, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que je pense que, de son point de vue, il a eu plutôt raison de partir maintenant, même si je suis d'accord, il y aura forcément des gens qui diront, bah alors pourquoi est-ce que, à quoi sert-il à la place Beauvau, s'il regarde vers l'Élysée, évidemment c'est pas très loin géographiquement, hein, il y a 200 mètres, mais ça agacera forcément.
D'autant plus que les Français sont très demandeurs sur cette question de la sécurité, de l'immigration.
Mais en une phrase, je pense que la stratégie offensive de Retailleau est plus adaptée que l'attentisme de Laurent Wauquiez.
Alors pour l'instant, quand on regarde les sondages, il avance, hein, sur Laurent Wauquiez, c'est très net. Hein. Même quand on interroge les sympathisants de droite, les LR.
Oui.
Donc le match est plié.
Non, mais alors, personne ne sait jamais. Simplement, ce qu'on peut dire, j'ironisais tout à l'heure un peu sur Laurent Wauquiez, pourquoi ? Parce que je pense que la force de Bruno Retailleau, quoi qu'on pense de ses idées, c'est que c'est quelqu'un qui est plutôt sincère. C'est-à-dire qu'il
il
croit en ce qu'il dit.
Il a toujours tenu
le même discours. Et c'est plutôt cohérent. Et il pense devoir appliquer ce qu'il croit bon pour la France. Jusqu'à présent, il n'avait pas en tête un plan de carrière et une stratégie. Donc c'est ça qui, à mon avis, aide aussi à une part de sa popularité. Moi, ce qui me pose problème là-dedans, premièrement, on en est encore à commenter systématiquement selon le prisme du Rassemblement National. C'est-à-dire, est-ce que ça fait monter, ça valide les thèses du Rassemblement National, ou est-ce que ça permet de prendre des électeurs au Rassemblement National ?
Ça reste quand même les favoris des élections.
Voilà, non mais on est à temps plein là-dessus, plutôt que d'avoir une vision cohérente de l'état de la France et de la façon dont on répond aux problèmes qui se posent. Et deuxième point qui, à mon avis, pose un peu problème dans le profil de Bruno Retailleau, c'est justement qu'il est considéré comme s'occupant et ne parlant que de sécurité et d'immigration. Alors, les gens lui savent gré de ça pour ceux à qui ça convient.
Mais donc, à mon avis, la question,
c'est que l'avenir de la France ne se résume pas à la gestion de l'immigration et de la sécurité. Voilà.
C'est un libéral conservateur.
Il est tout à fait classique, en effet, libéral conservateur, et c'est une part importante de l'opinion de droite en France. Oui. Mais moi, j'aimerais qu'on débatte de l'état de la France dans son ensemble. Un projet présidentiel, ça doit être cohérent.
Il n'est pas encore candidat à présidence.
C'est ça qui m'intéresserait.
Moi, je suis d'accord sur l'idée que un de ses atouts est dans l'idée que les Français se font de lui, c'est que, ce qui est quand même relativement rare en politique, il a toujours été constant dans ses choix et qu'il l'a démontré à chaque fois qu'il l'a pu. Donc, il a une présomption de sincérité et d'authenticité, ce qui n'est pas forcément la même chose pour Laurent Wauquiez ou pour d'autres, d'ailleurs, ou pour Éric Ciotti, après tout, qui était le président d'un parti qu'il a quitté avec fracas. Donc, lui, au moins, il a ça. Est-ce que on peut lui reprocher déjà de ne pas présenter un projet présidentiel ? Là, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il n'a aucun intérêt à présenter maintenant un projet présidentiel et surtout pas, évidemment, un programme. D'ailleurs, je pense qu'il ne l'a pas, mais enfin, surtout pas un programme. Mais même un projet, je pense que c'est trop tôt. Il a marqué un point, mais c'est un point au début d'un jeu. Il a marqué un point parce qu'il est parti le premier à un moment qui était bien choisi. Sur le fond, il y a absolument tout à démontrer. Et c'est vrai que la bagarre, en réalité, ça ne va pas être avec Laurent Wauquiez. La bagarre, ça va être avec Marine Le Pen.
Oui.
C'est-à-dire que lui essaye de démontrer et s'est forcé, puisque c'est elle qui est la favorite aujourd'hui. Là aussi, on en pense qu'on en veut, mais enfin, c'est une réalité. On ne peut pas tourner autour du pot.
Non.
Et lui, il faudra qu'il marque vraiment concrètement des points qui soient possibles de mettre en avant pour dire, vous voyez, non seulement que je pense bien, entre guillemets, mais que j'obtiens des résultats. Je pense que ça va être ça son critère, et il va évidemment sélectionner des résultats qui sont d'un ordre symbolique fort, mais qui ne demandent pas de métamorphose de la société, évidemment.
Thomas Laurent.
Marine Le Pen, sa force, c'est d'abord qu'elle n'est pas au pouvoir et qu'elle est donc, non pas irresponsable, mais responsable. Donc c'est très facile d'avoir un discours. Il n'est jamais mis en regard de réalité, ce qui ne sera pas le cas dans quelques temps, parce que le ministère de la parole au ministère de l'Intérieur, ça dure pas si longtemps. Donc il y a cette difficulté. Puis Marine Le Pen, sa popularité est assise sur deux jambes. Une jambe sécuritaire, identitaire qu'on connaît à droite, et puis une jambe un peu sociale, en tout cas, et qui est d'ailleurs la responsabilité sur la question sociale lui est très favorable, hein, parce que là on peut, elle a même pas une mairie, même pas un département, même pas une région.
Elle est sur le thème du pouvoir d'achat.
Oui, elle est sur le thème.
C'est pas un thème que Bruno Retailleau incarne.
Le jour où on entendra Bruno Retailleau, ce que dit Bruno Retailleau sur ces questions-là, retraite à 67 ans, économie dans tous les sens, je ne sais pas si ça marche.
Marine Le Pen a une longueur d'avance.
Il y a des pays où ça marche.
Je suis pas sûr qu'il dira de nouveau retraite à 67 ans.
Oui, mais en tout cas, il y a des pays où ces programmes-là ont marché. Aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas dans quel état est la France ou sera la France. Peut-être qu'elle acceptera cette chose-là. Et je voulais revenir sur la question de la sincérité. Il a l'air plus sincère.
Non, il est.
Il est sûrement plus sincère.
Oui.
S'il est sincère gagné, je pense que Michel Rocard serait président. Je suis pas sûr que François Mitterrand aurait gagné. Jacques Chirac, est-ce que Jacques Chirac, qui a changé 15 fois d'avis, Marine Le Pen, qui change d'avis tout le temps, serait-elle en tête? Donc la sincérité, malheureusement.
Argument déçu de Thomas Le Grand.
La sincérité, malheureusement, n'est pas.
Pour être président.
Moi, je préfère des gens qui font des choses bien de façon insincère que des gens qui font des conneries de façon sincère.
Oui, mais enfin, en même temps, c'est totalement paradoxal parce que c'est un sincère sincère alors que les exemples qui avaient été montrés, c'était des sincères pas sincères.
Rocard était sincère, il a perdu. Barre était sincère, il a même pas pu se présenter. Enfin, il a perdu plutôt. Delors était trop sincère pour se présenter.
Il faut pas être sincère en politique.
Chirac et Mitterrand sont quand même les summums de l'insincérité et du tordu. Donc, c'était juste pour casser un petit peu cet argument.
C'est-à-dire le dernier argument politique honorable.
L'autre personnalité politique de la semaine s'appelle Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre d'Emmanuel Macron, le proche du chef de l'État. Et justement, Emmanuel Macron l'a choisi pour être président du Conseil constitutionnel. Il faudra, bien sûr, une validation du Parlement.
Des commissions de loi.
Au sein du Parlement, précisément. Depuis, ça a déclenché une polémique. L'opposition, finalement, dénonce la République des copains, estime que Richard Ferrand, qui n'est pas un juriste, n'a rien à faire à la tête de ce Conseil des sages.
Bon, alors, d'abord, moi, je suis, depuis le début de cette polémique, fasciné par le fait que tout le monde parle du président du Conseil constitutionnel, comme si c'était lui qui faisait les décisions. Conseil constitutionnel, non seulement ils sont neuf, mais ils fonctionnent par consensus. C'est un primus inter pares, le président, et c'est pas lui qui impose du tout des décisions.
Celui
qui est le plus influent en réalité sur chaque décision, c'est celui des membres à qui on a donné le dossier et qui est le rapporteur. Et le président, il n'est déterminant que en cas d'égalité des votes.
D'accord, c'est-à-dire enfin, faut 4, mieux qu'ils s'y 4, connaissent. Bon, mieux qu'ils s'y connaissent quand même.
Alors, deuxièmement. Sur le droit, c'est évident que moi j'aime mieux quand c'était le doyen Vedel qui était le pape du droit constitutionnel qui siégeait au Conseil constitutionnel, ou quand c'était Pierre Mazeaud, conseiller d'État, qui était en plus un professeur d'université remarquable et qui présidait le Conseil constitutionnel.
Richard Ferrand a fait 2 ans de droit.
Oui, il a fait 2 ans de droit. Mais ce que je voulais dire, c'est bon, d'abord, on va pas tous les noter maintenant en fonction des diplômes. Le Conseil constitutionnel doit s'occuper de la validité des lois et de la régularité des élections. Donc, autrement dit, il faut connaître la pratique institutionnelle. On n'a pas besoin d'être professeur de droit civil, de droit pénal, d'histoire du droit ou de quoi que ce soit d'autre. Maintenant, si vous voulez, quelqu'un qui, à la surprise générale, a été un président du Conseil constitutionnel. Non seulement efficace, mais courageux à la surprise de tout le monde et qui a joué un rôle très important, c'est Roger Frey qui n'y connaissait rien et qui néanmoins a eu une influence.
Donc, il n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
Je pense que c'est pas le sujet. Cela dit, j'aimerais bien qu'on ait un Vedel. On n'a pas de Vedel.
Alors, Natacha Polony, est-ce que c'est la République des copains? Je reprends l'expression qui a été utilisée par l'opposition.
L'opposition joue son rôle, c'est très clair. On sait que Jean-Louis Debré était copain de Jacques Chirac. Laurent Fabius était copain de François Hollande. Le problème n'est pas là.
Roland Dumas et voilà, Robert Badinter étaient les avocats de François Mitterrand.
Voilà. Oui. Donc, la question du copinage ne se pose pas de cette manière-là, me semble-t-il. Après, qu'en effet, il y ait eu des présidents du Conseil constitutionnel qui n'y connaissaient pas grand-chose en droit, c'est un fait également.
Et la
question, c'est de savoir combien il y a de juristes au sein des neuf sages. Or là, ça commence à pencher beaucoup du côté des politiques.
Oui. Cette fois-ci, dans le renouvellement, il y a quand même deux juristes sur trois.
Nous sommes d'accord.
Puisque l'une était magistrate et l'autre conseiller d'État.
Et Laurent Fichnevski. Alors, Premier point sur Richard Ferrand, ce qui me gêne, ce n'est pas le fait donc qu'il ne soit pas juriste, c'est le fait qu'il a quand même eu quelques ennuis avec la justice et surtout, il est parti faire de l'argent. Il a une boîte de conseils.
Donc, et c'est grave de gagner sa vie.
C'est très bien de gagner sa vie. Le fait pour des politiques de se recycler dans le conseil, ça s'appelle monnayer son carnet d'adresses. C'est pas exactement la même chose que d'exercer un métier. Et simplement, la question du recul qu'on peut avoir sur l'ensemble des sujets est un problème. Deuxième problème, le Conseil constitutionnel a vu son rôle évoluer ces dernières années, dans un sens qui mériterait d'être discuté, mais qui fait que, justement, il faut préserver cette institution du risque de politisation. Et c'est là où ça risque de...
Le risque de politisation, c'est pour ça que je dis que j'aimerais mieux un juriste, il est malheureusement éternel. C'est-à-dire que tout le monde a choisi... On n'a pas un exemple...
Pas sur
D'un mot.
Parce qu'il reste 20 secondes.
Ah bon.
Pardon, excusez-moi, vous êtes très bavard et c'est passionnant à vous écouter, mais il reste 20 secondes. Après, on bascule en édition spéciale. Thomas Legrand.
Non, mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'on... tout ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Et donc, il y a déjà eu des cas où il n'y avait pas de juriste ou des copains. Je vous rappelle juste que Emmanuel Macron, mais bon, ça fait très longtemps, était là pour rénover et révolutionner la politique. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Mais surtout, on va arriver dans une période... Imaginons que Marine Le Pen ou quelqu'un du Rassemblement National ou même Bruno Retailleau qui dit qu'il faut faire, par exemple, un référendum sur l'immigration alors que c'est pas constitutionnel. Il va y avoir, en ce moment, il y a une pente illibérale qui dit que finalement tout est à cause des juges, tout est à cause du Conseil constitutionnel, etc. Et donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'irréprochable, une sorte de Jean-Marc Sauvé, vous savez.
Alors là, je suis pas sûr que les gens qui nous regardent.
Quelqu'un d'inconnu mais irréprochable d'un point de vue du droit et quelqu'un de respecté qui puisse dire le droit, parce que là on dira toujours, même s'il est très bon et même s'il est très capable, on dira toujours c'est le copain du président.
Je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que face à l'illibéralisme, disons, face à Marine Le Pen, bon, dans un cas comme ça, il vaut mieux que ce soit un politique expérimenté, quel qu'il soit.
Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un politique expérimenté.
Que ce soit un politique expérimenté plutôt qu'un technicien juriste.
Peut-être, mais ce n'est pas le cas. Monsieur Ferrand était inconnu quand il était au PS et il n'est connu que d'être l'ami
d'Emmanuel Macron.
Il a quand même été président de l'Assemblée nationale.
Ça ne vous fout rien, Alain, vous le savez.
Merci, Natacha Polony.
C'est terminé, Thomas. D'indépendance de Richard Ferrand.
Merci, Thomas Legrand. Merci, Natacha Polony.
C'est trop tard, vous n'avez pas le droit de le dire.
Merci, Alain Duhamel. Merci à tous les trois.